C'est l'heure du journal par Antoine. Merci Antoine, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Le rapport Mathiot sur la réforme du bac remis au ministre de l'Éducation. Le texte conseille d'abord de limiter l'examen à 4 épreuves finales qui compteraient pour 60% de la note et donc de l'examen. Précision, commentaire dans un instant avec Hakim Kasmi. Le président du Sénat, Gérard Larcher, rappelle ses lignes rouges en matière de réforme constitutionnelle, notamment sur la réduction du nombre de parlementaires, compte rendu d'une conférence de presse ce matin au Sénat avec Camille André. La France pourrait bientôt alléger la répression de la consommation de cannabis. Un rapport parlementaire préconise de sanctionner les usagers par une amende forfaitaire délictuelle, suivie d'Ilan Malka. Les blocages des prisons qui se poursuivent encore ce matin, les discussions entre ministères et syndicats au point mort après l'échec des négociations hier. Le président LR de la région PACA, Renaud Muselier, demande ce matin la démission de la garde des Sceaux. Nicole Belloubet, analyse politique de Frédéric Seyss. Et puis la Catalogne avec le gouvernement espagnol qui tente d'empêcher en ce moment une réunion entre l'indépendantiste Carles Puigdemont et le président du Parlement à Bruxelles. Explication Marie-Pierre Véro, l'invité de la séquence interview en direct de l'Assemblée nationale. Aurélien Taché, député La République En Marche du Val d'Oise et dans la dernière partie de la Grande Table, Olivia Jasbert.
Il vient de nous rejoindre dans ce studio et suivra attentivement votre journal. Yves Coppens, aux origines de l'homme, aux origines d'un homme. Ce sont ses mémoires, mais c'est surtout le récit des découvertes qu'il a faites durant toutes ces années et des évolutions de sa discipline, comment mettre en parallèle ses découvertes avec le savoir qu'il a aussi nourri tout au long de ces années. Le paléo-anthropologue Yves Coppens est donc notre invité aujourd'hui pour cette deuxième partie de la Grande Table.
La nouvelle formule du bac, donc, pour commencer, avec la fin des séries, des choix, des épreuves finales, et puis un grand oral. Pierre Mathiot, donc, ancien directeur de Sciences Po Lille, remet son rapport aujourd'hui au ministre Jean-Michel Blanquer. Ça sera cet après-midi. Un texte qui conseille d'abord de limiter le bac à 4 épreuves finales, donc celle de philosophie qui serait conservée pour tous les bacheliers, qui en choisirait 2 autres parmi plusieurs combinaisons majeures, par exemple maths physique, lettres langues, ou bien encore sciences économiques et sociales, histoire géo, et puis les lycéens auraient donc à passer 4e épreuve, donc un grand oral, 4 épreuves qui compteraient au total pour 60% de la note du bac. Les 40% restants seraient établis par un contrôle continu. Hakim Kasmi, bonjour.
Bonjour Antoine, merci.
Voilà quelques-unes des grands principes qui vont être annoncés tout à l'heure. Quelle est la logique de cette proposition de réforme?
Eh bien, dans un premier temps, l'objectif serait, et l'esprit serait, de créer une compatibilité avec la nouvelle réforme de l'université. C'est ce qu'on appelle, dans le jargon de l'éducation, le plus 3, moins 3, qui va de la seconde à la licence. Avec un objectif, mieux préparer les lycéens au supérieur. Puisque 60% des étudiants décrochent aujourd'hui en première année à la faculté, ce qui en fait l'un des plus mauvais taux d'Europe. D'où la spécialisation avec les fameuses majeures et ces 4 épreuves terminales qui compteront pour 60% de la note. Cela devrait être confirmé cet après-midi. Car aujourd'hui, même avec les filières S, L et ES, il y a eh bien, de l'orientation par défaut, notamment en scientifique, où 40% des élèves ne se destinent pas forcément à poursuivre dans le supérieur des études scientifiques. L'autre but, lui, il est financier. Le bac reste une grosse usine à gaz, très coûteuse, avec une grosse logistique. Les élèves peuvent avoir jusqu'à 16 options lors du bac, et ce qui fait 16 épreuves, ce qui est quand même beaucoup, et ce qui coûte environ chaque année environ 1,5 milliard d'euros.
Alors, quelles sont les objections qui n'ont pas manqué déjà d'être faites et qui seront sans doute faites à ce projet de réforme?
Et ce qui inquiète les syndicats et une partie des enseignants, c'est la fin du tronc commun. Le bac général va devenir un diplôme de spécialiste, ce qui, en termes de culture générale, pourrait par exemple défavoriser les élèves issus des quartiers populaires qui ont moins accès à la culture dans tous les sens du terme. Car pour eux, l'école est une véritable ouverture sur le monde et un accès à la culture. Quant aux notes, elles pourraient eh bien, avoir du contrôle continu. C'est le cas par exemple, puisque elle devrait représenter 40% de la note finale, ce qui pose la question du contrôle des copies. Y aura-t-il du contrôle continu? Y aura-t-il surtout des copies qui seront corrigées par les enseignants qui sont hors du lycée, ou bien des copies anonymes? Autant de questions pour lesquelles il n'y a pas de réponse, car cela sera révélé cet après-midi par Jean-Michel Blanquer et Monsieur Mathiot.
Merci beaucoup. Hakim Kasmi a noté encore que l'association des professeurs de biologie et de géologie s'inquiète. Elle constate, cette association, l'absence de l'enseignement des sciences de la vie vie et de la Terre, les SVT, comme discipline obligatoire dans les enseignements fondamentaux du cycle terminal, c'est-à-dire les classes de première et de terminale, d'où la crainte qu'une grande partie des lycéens pourraient ne plus avoir de SVT après la seconde. Il y a une pétition qui a déjà été signée par plus de 40 000 personnes et on salue l'invité de la dernière partie, Yves Coppens. Bonjour.
Bonjour.
Finalement, pourquoi on en voudrait aux sciences de la vie et de la Terre et pourquoi est-ce si important de les maintenir? J'imagine que vous allez nous les défendre.
Ben, c'est-à-dire que, oui, vous savez, ces sciences ont des titres, mais les titres ne sont pas si rigides que ça. Il y a de la porosité normalement entre les sciences. Et lorsqu'on favorise une science au détriment d'une autre, on s'aperçoit qu'on ne peut pas pratiquer cette science sans connaître l'autre. Du même coup, c'est extrêmement important. Regardez les grands problèmes d'aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les séismes à travers la Terre entière. Ce sont les fameux tsunamis qu'on s'entête à dire en japonais, alors que ça se dit raz-de-marée en français. Et d'autre part, c'est le changement climatique. Comment voulez-vous comprendre le changement climatique si vous ne faites pas un peu de géologie et un peu de science de la vie et de la Terre, science de la Terre en tout cas.
Vous avez l'impression qu'aujourd'hui on privilégie plutôt les sciences dures,
vous savez, ce sont des modes. Quelquefois on en privilégie d'autres et puis on s'aperçoit que les autres ont besoin des premières pour être relancées, donc on les relance, mais cette fois ce sont les premières qui sont en défaut, en fait, etc. Quoi.
Merci beaucoup Yves Coppens, on vous retrouve pour la dernière partie de La Grande Table pour parler de votre biographie, origine de l'homme, origine d'un homme. Ce sont vos mémoires donc chez Odile Jacob. Le président du Sénat, Gérard Larcher, dévoile ses 40 propositions pour la réforme constitutionnelle qui est souhaitée par le chef de l'État, Emmanuel Macron, laquelle prévoirait notamment une réduction du nombre de parlementaires, une limitation du nombre de mandats et puis l'introduction d'une dose de proportionnelle aux législatives. Larcher a donc rappelé ce matin ses lignes rouges. La réforme devra être adoptée, on le sait, à l'identique au Sénat et à l'Assemblée nationale pour obtenir une majorité des 3/5 des suffrages exprimés du Parlement réunis en congrès. Donc, évidemment, le Sénat a donc un rôle important en la matière. Camille André, bonjour.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
Vous êtes sur place. Quelle est la tonalité ce matin au Sénat?
Un ton ferme, déterminé et prêt à se lancer dans la négociation. C'est comme ça que s'est présenté le président du Sénat ce matin. Il s'est dit en faveur d'une révision constitutionnelle à condition qu'elle soit utile à la France. Alors, sur le fond, on savait qu'il y avait plusieurs points de friction entre le Sénat et le gouvernement, notamment concernant la baisse d'un tiers du nombre de parlementaires. Gérard Larcher formule plusieurs demandes. Qu'on conserve au moins un député et un sénateur par département, c'est important pour la représentation des territoires, a indiqué le président du Sénat. Il formule aussi une autre demande, maintenir l'équilibre actuel entre la part de députés et la part de sénateurs, c'est-à-dire 62% de députés pour 38% de sénateurs. Et puis surtout, le Sénat s'oppose clairement à la limitation du cumul des mandats des élus locaux et parlementaires. Cette mesure n'est pas acceptable, a dit Gérard Larcher pour une majorité du groupe de travail. D'après lui, elle porte atteinte à la liberté de choix des électeurs qui découle de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, sans compter que seuls 7 sénateurs seraient aujourd'hui concernés par cette disposition. Après, il y a d'autres axes de travail. Une grosse partie de ces propositions vise à mieux faire la loi, comme a dit Gérard Larcher. Le gouvernement voulait raccourcir les délais pour fabriquer la loi. C'est un leurre, a assuré le président du Sénat, qui réclame que le gouvernement respecte le bicamérisme, avec quelques demandes nouvelles, encadrer le temps de parole du gouvernement dans l'hémicycle, ou encore soumettre les amendements du gouvernement à un délai limite, comme c'est le cas pour les parlementaires. Et puis un petit clin d'œil, et c'est assez amusant, les sénateurs ont travaillé sur un axe qui vise à encadrer le pouvoir exécutif en limitant notamment à 20 le nombre de membres du gouvernement. C'est la première des 40 propositions. Sous-entendu, si vous voulez toucher au nombre de parlementaires, commencez par balayer devant votre porte.
Camille André, merci beaucoup. Donc au Sénat avec Pierre Quintard, le président du Modem français. François Bayrou exhorte ce matin Emmanuel Macron à ne pas céder sur cette réforme constitutionnelle. Pour lui, il n'y a pas de risque même à recourir à un référendum sur le sujet si le Sénat était réticent. On est en ligne en direct de l'Assemblée avec Aurélien Taché. Bonjour.
Bonjour.
Député de La République En Marche du Val-d'Oise. Ah, si le Sénat s'oppose, manifestement, pour l'instant, il a quelques conditions à poser. Est-ce que vous êtes d'avis aussi qu'un référendum ne représenterait pas de risque pour le chef de l'État ?
En tout cas, ce qui est certain, c'est que voilà, le président de la République avait rappelé lors de la réunion du Congrès à Versailles, on s'engagera sur une réforme constitutionnelle pour moderniser nos institutions et qui passe par un certain nombre d'engagements forts, comme notamment la réduction d'un tiers du nombre de parlementaires pour que le Parlement retrouve vraiment tout son rôle et que les parlementaires aient plus les moyens de travailler dans de meilleures conditions qu'aujourd'hui. Donc voilà, on ne dévira pas de notre cap. Et si il est nécessaire effectivement de recourir au référendum et d'aller demander l'avis des Français sur cette question, je pense qu'il faudra qu'on le fasse effectivement, puisque voilà, c'est des engagements qui ont été pris. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui Emmanuel Macron est vraiment totalement reconnu par les Français dans sa façon de présider. Quand il prend des engagements, il les tient, et sur celui-ci on ne bougera pas non plus.
Aurélie Attaché, merci. On vous retrouve pour la séquence interview à la fin de cette édition. Le leader indépendantiste catalan Puigdemont et les autorités espagnoles continuent un peu de jouer au jeu du chat et à la souris. Le gouvernement espagnol ordonne ainsi à la représentation de la région Catalogne à Bruxelles de ne pas permettre une réunion qui a été prévue aujourd'hui ce midi entre l'indépendantiste donc Carles Puigdemont et le président du Parlement catalan. Il y a des instructions qui ont été données à la déléguée de la Généralité à Bruxelles donc afin qu'elle ne permette pas cette réunion dans les locaux en tout cas de la délégation. Marie-Pierre Véraud, bonjour.
Bonjour Antoine.
Alors Madrid menace, on le sait, d'arrêter M. Puigdemont s'il rentre en Espagne ou en Catalogne. Le gouvernement central peut-il empêcher aussi de mener une stratégie de contournement finalement pour, avec l'objectif que l'on connaît, c'est de se faire malgré tout désigner comme président de la province.
Mais cela devient de plus en plus difficile pour Madrid, non d'un point de vue technique mais politique, car il semble bien que nous sommes désormais sur ce terrain-là, même si Mariano Rajoy continue de s'agripper au texte et à brandir les poursuites judiciaires dont Puigdemont est passible pour s'opposer à son investiture, car il est vrai que si Carles Puigdemont rentre, il peut être arrêté puisqu'il est poursuivi pour sédition et rébellion, notamment par la justice espagnole. L'autre possibilité serait une investiture à distance, par vidéoconférence, ce que les juristes du Parlement catalan jugent contraire au règlement. Madrid a promis en tel cas de saisir la Cour constitutionnelle pour l'empêcher. C'est justement pour discuter des détails de cette investiture que Roger Torrent, le président du Parlement catalan, est à Bruxelles. Faute de pouvoir rencontrer Carles Puigdemont et les députés catalans en exil au siège de la Généralité, que Madrid vient de faire fermer, c'est dans les locaux de l'Alliance Libre Européenne, une alliance de partis régionalistes européens, que se tient en ce moment la réunion. Une conférence de presse est prévue à la mi-journée, vers 13h. Pour l'heure, toutes les possibilités restent ouvertes. Puigdemont a retiré hier sa délégation de vote, laissant planer l'hypothèse d'un retour physique pour l'investiture qui serait fixée au 30 janvier. Et cela met Madrid sur les nerfs. Il s'agit à tout prix d'éviter son entrée dans l'enceinte du Parlement, où son arrestation ne ferait rien pour redorer le blason madrilène devant toutes les caméras. Le ministre de l'Intérieur martèle que tout sera fait pour empêcher que Puigdemont n'entre dans cette enceinte, en secret, pas même dans le coffre d'une voiture. Les forces de l'ordre seraient sur le qui-vive pour traquer ULM, hélicoptères, bateaux, on croit rêver. Pendant ce temps, Carles Puigdemont fait circuler une vidéo devenue virale où il embrasse le drapeau espagnol. On voit qui engrange des points et qui apparaît le plus ouvert à une discussion apaisée, car c'est bien sur ce terrain politique qu'il faudrait à présent aller pour dénouer une situation qui sombre chaque jour davantage dans le ridicule, il faut bien le dire. Le président du Parlement catalan appelle d'ailleurs au dialogue Mariano Rajoy pour trouver cette solution. Rajoy qui s'y refuse et qui répétait encore ce matin qu'il ferait tout son possible pour empêcher l'investiture de Puigdemont, qui a pourtant remporté les élections et qui, s'il était arrêté alors qu'il se soumet à un processus démocratique, mettrait vraiment Madrid dans l'embarras.
Marie-Pierre Véraud, merci. Emmanuel Macron qui va s'exprimer au Forum économique de Davos en Suisse, ainsi que la chancelière Merkel cet après-midi. Autre venue très attendue, celle du président américain Donald Trump, qui doit s'entretenir, lui, demain matin avec la première ministre britannique et le premier ministre israélien. Pour Pierre Moscovici, le commissaire européen, Davos, c'est un lieu de speed dating où on rencontre en 48 heures plus de gens qu'on rencontre en un mois, donc cela a bien une utilité. Et selon le directeur de l'affréteur de jet service privé Air Charter, aucun autre événement au monde n'exerce un tel pouvoir d'attraction. Il y a plus de 1000 vols de jet privé programmé lors des 5 jours du forum l'an dernier, sans doute plus encore cette année. Des hommes armés qui attaquent le bureau de l'organisation humanitaire Save the Children à Jalalabad, c'est dans l'est de l'Afghanistan. Le bilan provisoire est d'au moins 2 morts et 12 blessés. Le groupe État islamique revendique cette attaque. Et puis en Libye, double attentat à la voiture piégée à Benghazi qui a fait au moins 33 morts, des dizaines de blessés. Après 3 ans de combat, les forces du maréchal Khalifa Haftar, l'ANL, ont annoncé fin décembre avoir repris le dernier quartier de Benghazi, encore tenu par les combattants islamistes. Mais on ne sait pas encore une fois qui est l'auteur de ce double attentat très meurtrier, donc à nouveau en Libye. 12h45, on revient à l'actualité française pour évoquer peut-être cet allègement, en tout cas prévu, de la répression de la consommation du cannabis. Un rapport parlementaire préconise de sanctionner les usagers pour une amende forfaitaire délictuelle qui irait de 150 à 200 euros assortie éventuellement de poursuites ou par une simple contravention. La réaction du sénateur Alain Milon, qui est médecin et qui est président de la commission des affaires sociales au Sénat, recueillie par Ilan Malka.
On peut constater, c'est que la loi jusqu'à présent était quasiment inapplicable et qu'il fallait la modifier. Donc je pense que ça va alléger le travail de la police, de la justice, et puis ça permettra certainement d'avoir une réflexion plus approfondie. Il faudrait qu'elle soit accompagnée d'une publicité de plus en plus importante sur les effets néfastes de ce produit, en sachant qu'en plus, s'il est fumé, non seulement il est dangereux au niveau des cellules neuronales, mais il est dangereux aussi parce que le cannabis, comme le tabac, provoque également des cancers.
À côté donc des gens qui ont peur effectivement que les jeunes consomment plus de cannabis, il y a ceux qui regrettent que le texte ne prévoit pas d'avancée vis-à-vis du cannabis thérapeutique. Alors là encore, en tant que médecin, quelle est votre position ?
Pour l'instant, il n'y a pas de preuve scientifique d'une véritable efficacité du cannabis thérapeutique. Donc moi, j'attends des chercheurs qu'ils fassent des études plus approfondies sur les effets efficaces des cannabinoïdes. Si les études prouvent que, de toute évidence, il y a des effets positifs, il n'y a aucune raison qu'on ne se serve pas de ce médicament. On se sert de la morphine, il n'y a aucune raison qu'on ne se serve pas de celui-là aussi.
Alain Milon donc avec Ilan Malka. On termine avec les blocages des prisons qui se sont poursuivis encore ce matin. Les forces de l'ordre qui doivent intervenir à Fresnes pour permettre le transfert au tribunal du logeur de deux djihadistes du 13 novembre. Donc le transfert qui a été effectué il y a quelques minutes. Des discussions entre le ministère de la Justice et les syndicats qui sont au point mort, avec les organisations syndicales qui ont quitté la table des négociations hier, qui jugent encore nettement insuffisantes les propositions du gouvernement, et le président LR de la région PACA, Renaud Muselier, qui demande ce matin la démission de la garde des Sceaux, Nicole Belloubet. Rien n'a été préparé, dit-il, par la ministre compétente, qui par conséquent est incompétente, affirme Monsieur Muselier. Bonjour Frédéric Saïs.
Bonjour.
Alors sur ce dossier, comme peut-être sur certains autres, les ministres dits techniques paraissent peut-être toucher certaines limites.
Oui, une ministre huée, des gardiens de prison qui lui tournent le dos et un conflit qui s'enquiste. L'image est assez forte pour être notée. Elle va à rebours du déroulé général de ce début de quinquennat. Jusqu'ici, les différents membres du gouvernement n'ont pas rencontré de difficultés majeures. Les ordonnances que l'opposition prévoyait comme un bourbier pour Emmanuel Macron sont finalement passées sans énorme mouvement de contestation. La réforme de l'enseignement supérieur, très sensible, n'a pas non plus mis la jeunesse dans la rue, contrairement à ce qu'espérait Jean-Luc Mélenchon. Il reste évidemment des dossiers où le feu couve, comme les Outre-mer, comme le mal-être des policiers. Mais ce mouvement dur des personnels de pénitentiaire met la méthode du gouvernement en question, celle qu'il avait revendiquée dans le déminage du dossier de Notre-Dame-des-Landes. Alors comment l'expliquer ? Les difficultés budgétaires, bien sûr, du ministère. Le budget du ministère de la Justice représente près de 8 milliards d'euros, soit seulement 2% du budget de l'État, mais il est en augmentation par rapport à l'an dernier, plus 4%. Ça n'est donc pas uniquement cela. La présence évidente de plus en plus importante de détenus djihadistes renforce le sentiment de détresse des gardiens. Mais au-delà de ça, il y a aussi, et c'est là où on en vient au sujet que vous évoquiez Antoine, des erreurs de gestion du dossier, des erreurs politiques. Les syndicats pénitentiaires, par exemple, ont très mal pris les premiers gestes de Nicole Belloubet pour calmer la fronde, notamment, disent-ils, la promesse d'une prime pour les personnels qui avaient été agressés à Vendin-le-Vieil, dans le Pas-de-Calais, comme si elle voulait nous acheter, a expliqué l'un de 9 mois après le début du quinquennat. Les atermoiements posent aussi la question, effectivement, de ces ministres au profil très technique, choisis, disait Emmanuel Macron, uniquement pour leurs compétences, sous-entendu, avant c'était un peu des accords sur un coin de table, très à l'aise avec les dossiers, certes, mais le sont-ils autant avec les interlocuteurs, le sont-ils avec le jeu médiatique, par essentiel du portefeuille de ministre. Ces profils d'experts, jusqu'à présent, sont assez discrets, comme Agnès Buzyn à la Santé, Elisabeth Borne au Transport et Nicole Belloubet. Jusqu'ici, ils sont en fait pris dans une double contrainte. L'Élysée a imposé une limitation drastique du nombre de conseillers de ministres. Et face à ce monde au code complexe, ces ministres dits de la société civile sont-ils assez bien entourés ?
Voilà, c'est une question qu'on va poser à notre invité dans un petit instant. Signalons encore le dossier Corse qui pose aussi quelques difficultés puisque selon le leader autonomiste Gilles Simeoni ce matin, l'État ne propose pas aux nationalistes corses une discussion mais une capitulation. Donc, affirme M. Simeoni après avoir été reçu en début de semaine par Édouard Philippe et Gérard Larcher. Aurélien Taché, donc vous êtes toujours avec nous en direct de l'Assemblée, député La République En Marche. Bon, il y a cette question des prisons, il y a aussi la question des migrants. Il y a des sujets, disons, on pourrait dire à grande subjectivité politique, où il semble que le macronisme ait plus de mal à s'imposer que sur d'autres sujets plus économico-social. Est-ce que vous partagez une partie de ce diagnostic pour le moins ?
Non, mais on va avancer sur les sujets que vous venez d'évoquer. Les premiers mois de notre action ont été effectivement plutôt consacrés à des réformes du domaine économique et social. Mais sur les sujets relatifs plutôt régaliens, puisque c'est de ça qu'on parle là, vous verrez que là aussi, on a vraiment des propositions à faire et qu'on va s'attaquer à un certain nombre de sujets auxquels personne ne s'est attaqué. Je veux dire, les conditions des prisons, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Ça fait des années qu'on a un sous-investissement dans le milieu pénitentiaire. Ça fait des années qu'on sait qu'il faut créer plus de places. Emmanuel Macron a pris un engagement clair là-dessus et a dit qu'on créerait 15 000 places supplémentaires pendant le quinquennat. Je n'ai pas le souvenir que des majorités précédentes avaient pris des engagements aussi clairs. Et moi, je voudrais dénoncer la récupération politique que je trouve vraiment indigne de Renaud Muselier. On a vraiment aujourd'hui des gardiens et des personnels qui, effectivement, ont des revendications, qui sont légitimes, qui font entendre, qui ont des conditions de travail compliquées. Moi, j'ai un établissement carcéral sur ma circonscription à Oni, qui a d'ailleurs un quartier aussi d'évaluation des détenus radicalisés et je vois bien ce qui se passe dans les établissements, je vois bien qu'on a des personnels qui viennent de loin, moi je suis élu à Cergy, les personnels viennent la plupart du temps de la région des Hauts-de-France, ils ont du mal à se loger, il y a des vraies questions sociales auxquelles il faut répondre et on y répondra et je pense que c'est pas en faisant de la récupération politique comme le fait Renaud Muselier qu'on aide et qu'on fait avancer les conditions de travail de ces gardiens.
Stéphane Robert est à vos côtés, une question.
Oui, alors vous disiez, Aurélien Taché, que le problème des prisons n'est pas un problème nouveau, donc ça nécessite des réponses à long terme, certes, mais quand on a une crise comme ça, il faut des réponses à court terme, que manifestement la ministre a un peu de mal à cerner et un peu de mal à répondre. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Qu'est-ce qui manque ? Où est le problème précisément ?
Non, mais vous avez raison, il y a deux choses qu'il faut distinguer. C'est-à-dire que nous, on engage un plan de réforme structurelle avec la création de 15 000 places, avec aussi une vraie réflexion sur les alternatives à la détention, sur des peines plus effectives, puisqu'on sait très bien qu'en dessous de 2 ans, aujourd'hui, la plupart des peines ne sont pas appliquées. Donc voilà, il y a vraiment des réformes d'ensemble comme ça qui sont à mener. Et puis là, on a ainsi une situation, on a un mouvement social de personnel pénitentiaire auquel il faut répondre. Donc, il y a cette question des conditions de travail à regarder très concrètement. Je crois qu'il y a eu 1100 postes qui ont été annoncés par la ministre, qui vont être créés, qui vont permettre quand même d'améliorer ces conditions de travail.
Hein, par les syndicats.
Oui, c'est une première proposition. Il faut pouvoir discuter. Mais en tout cas, on met des choses très concrètes autour de la table. Il y a effectivement aussi cette question de la prime, alors qui visiblement a été mal comprise. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a des réponses concrètes qui sont amenées et que maintenant, il faut pouvoir discuter avec les principales organisations syndicales, comme c'est évidemment indispensable de le faire quand il y a des situations de ce type. Après, voilà, il y a aussi... moi, je voudrais quand même dire que, par exemple, quand on entend que certains menacent de bloquer, finalement, le transfert de Jaoul Daoud, enfin, du logeur de Saint-Denis, attention quand même. Enfin, les Français veulent ce procès. Là, on est sur des sujets qui sont extrêmement importants et sur lesquels on a vraiment besoin, je crois, de repenser d'abord prioritairement à l'intérêt général et à la nécessité de juger cette personne. Mais par contre, il faut qu'on ait un cadre de discussion clair pour avancer sur les revendications des syndicats du monde pénitentiaire.
Et finalement, est-ce que la compétence des ministres réclamée par Emmanuel Macron quand il les a nommés, est-ce que les réponses techniques suffisent ? Est-ce qu'il ne faut pas, dans un pays où on a une culture de l'affrontement, comme on le voit aujourd'hui, aussi une réponse politique ?
Il faut évidemment une réponse politique, mais précisément ce que La République En Marche défend, c'est que la réponse politique n'est pas forcément à chercher et à trouver dans l'affrontement. Et qu'on doit pouvoir arriver à là aussi avoir une culture du dialogue social qui est plus forte, et c'est valable aussi avec des syndicats de fonctionnaires ou par exemple du monde pénitentiaire en l'occurrence. Et moi je suis convaincu que Nicole Belloubet est vraiment dans cette démarche-là et peut avoir ces discussions tout à fait indispensables avec les organisations syndicales.
Un petit mot sur la question des migrants. grand, puisque vous êtes chargé d'un rapport sur l'intégration. Et on a eu confirmation qu'aujourd'hui, elle allait être nommée un délégué interministériel à l'intégration. On n'a pas encore le nom.
C'est la dernière question.
Oui. Où est-ce qu'on en est ici de cette préparation, puisqu'on sait que c'est un projet de loi très attendu à l'Assemblée nationale, du projet de loi sur l'asile et l'immigration?
On a eu précisément une réunion de travail hier soir avec le ministre Gérard Collomb, qui est venu rencontrer l'ensemble des députés de La République En Marche pour qu'on évoque le projet de loi et la politique qu'on doit mener. Donc les choses se mettent vraiment en place. Moi, je salue vraiment la méthode du gouvernement, qui est de 4 mois avant que le texte arrive à l'Assemblée nationale, de venir en discuter avec les députés. Moi, je lui remettrai mon rapport, ainsi qu'au Premier ministre, sur l'intégration dans une quinzaine de jours, parce qu'on a vraiment besoin d'une politique très ambitieuse en la matière. Là non plus, c'est un sujet qui est connu de longue date, auquel aucune majorité ne s'était vraiment attaquée. Donc voilà, les choses avancent bien, avec toujours une même philosophie: mieux mettre en œuvre le droit d'asile, parce qu'on a vraiment besoin d'améliorer la manière dont l'asile aujourd'hui est donné en France, faciliter les retours de ceux qui ne relèvent pas de ce droit d'asile, et mettre en place une vraie politique d'intégration.
Ça discute encore beaucoup entre députés, la majorité.
Il faut absolument qu'on ait une ambition égale pour chacun de ces volets, et c'est ça que les députés regardons.
Merci beaucoup Aurélien Taché d'avoir accepté d'être en ligne avec nous en direct de l'Assemblée à côté de Stéphane Robert, que je remercie également, ainsi qu'Yvan Turc pour la liaison technique. Un temps ensoleillé au sud de la Loire, pluvieux, venteux toujours sur le nord-ouest, avec encore 23 départements en vigilance orange, crue et inondation. La crue de la Seine notamment pourrait atteindre ou légèrement dépasser d'ici la fin de la semaine le pic des 6,10 m, qui était celui atteint en 2016. Des températures qui vont être globalement en hausse sur la moitié nord, de 12 à 16 degrés et localement 17 sur la moitié sud. C'est une édition qui s'achève et qui a été réalisée avec Yacine Bouzard. Le prochain journal, c'est 18h sur France Culture avec Aurélie Kiffer.